Alors, si vous voulez, nous allons invoquer l'Esprit Saint d'abord. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre journée de pèlerinage de Carême est bien évidemment sous le signe de la miséricorde. Dans le livre « Le nom de Dieu et miséricorde », donc livre qui est sorti juste en même temps que le début de cette année de la miséricorde, notre pape François dit « La miséricorde, c'est l'attitude divine qui consiste à ouvrir les bras, c'est Dieu qui se donne et qui accueille, qui se penche pour pardonner. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. On peut donc dire que la miséricorde est la carte d'identité de notre Dieu. Dieu de miséricorde, Dieu miséricordieux. La miséricorde est indissociable de la fidélité de Dieu. On peut renier Dieu, on peut pécher contre lui, mais Dieu ne peut se renier lui-même. Lui, il reste fidèle. La miséricorde, ce n'est donc pas seulement un attribut de Dieu. Nous pouvons dire « Dieu est miséricorde », comme Dieu est amour, comme Dieu est Yahvé. J'ai fait des petits chapitres pour donner une vision un peu complète sur cette miséricorde et en prenant particulièrement des références chez le pape Benoît, chez le pape Jean, le pape François, mais aussi chez Benoît XVI. Et nous avions davantage parlé du pape Jean-Paul II. Donc, dans une des dernières conférences, alors j'ai surtout insisté cette fois-ci sur le pape François. Benoît XVI avait dit aux jeunes à Cologne, lors des JMJ, que Jésus avait révélé le vrai visage de Dieu. Et c'est pour ça que le premier petit approfondissement, c'est la révélation par Jésus du vrai visage de Dieu miséricorde. Dans la bulle d'indiction de l'année de la miséricorde, notre pape François écrit on vous a présenté cette bulle d'indiction lors de la fête de Notre-Dame-des-Neiges et je vous encourage à y revenir car elle est très dense, elle est très complète et ce qu'a écrit le pape est très important. Donc notre pape écrit dans cette bulle « La mission que Jésus a reçue du Père a été de révéler le mystère de l'amour divin dans sa plénitude. L'évangéliste Jean affirme pour la première et unique fois dans toute l'Écriture, Dieu est amour. Cet amour est désormais rendu visible et tangible dans toute la vie de Jésus. Sa personne n'est rien d'autre qu'amour. Un amour qui se donne gratuitement. Les relations avec les personnes qui s'approchent de lui ont quelque chose d'unique et de singulier. Les signes qu'il accomplit, surtout envers les pécheurs, les pauvres, les exclus, les malades et les souffrants, sont marqués par la miséricorde. Tout en lui parle de miséricorde, rien en lui ne manque de compassion. » Soulignons ce mot « compassion ». dont notre pape François parle beaucoup. Il ne se contente pas d'en parler, d'ailleurs, il donne un témoignage émouvant par rapport à la compassion pour les pauvres, les exclus, les prisonniers, les grands malades. Cet aspect de la compassion, soulignons-le, n'était pas ignoré de ses prédécesseurs. Mais il faut reconnaître que le pape François est vraiment le pape de la compassion. Être compatissant, c'est être remué par la souffrance et l'épreuve de son prochain. Jésus a été très compatissant. Sa compassion a touché en profondeur le cœur de ceux qui souffraient. Face à la multitude qui le suivait, écrit encore notre pape François, Jésus, voyant qu'ils étaient fatigués et épuisés, égarés et sans berger, éprouva au plus profond de son cœur une grande compassion pour eux. En raison de cet amour de compassion, il guérit les malades qu'on lui présentait et il rassasia une grande foule avec peu de pain et de poisson. Ce qui animait Jésus en toutes circonstances n'était rien d'autre que la miséricorde avec laquelle il lisait dans le cœur de ses interlocuteurs et répondait à leurs besoins les plus profonds. Lorsqu'il rencontra la veuve de Naïm, qui emmenait son fils unique au tombeau, il éprouva une profonde compassion pour la douleur immense de cette mère en pleurs, et il lui redonna son fils, le ressuscitant de la mort. Après avoir libéré le possédé de Gérasa, il lui donna cette mission : annonce tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. Il est important, en cette année jubilaire, que nous sachions révéler à nos contemporains ce vrai visage de Dieu miséricorde. Dans ses exercices spirituels, saint Ignace de Loyola s'est efforcé de faire comprendre à ses retraitants que Dieu n'agit pas comme nous. Sa méditation du mystère de l'incarnation est très éclairante. Saint Ignace imagine les personnes divines dialoguant entre elles, comme dans un conseil, pour savoir quelle décision prendre en vue du salut des hommes. Depuis le péché originel et la multiplication des péchés personnels des hommes, les hommes étaient privés de la grâce de Dieu. Le ciel était fermé pour eux. Alors, que faire ? Un nouveau déluge ? Créer une nouvelle humanité ? Non. Dieu avait dit qu'il n'y aurait plus de déluge. Attendre qu'un homme répare au nom de tous les hommes pécheurs, c'est impossible. On ne pourra jamais trouver parmi les descendants d'Adam et Ève un tel homme qui pourrait accomplir un tel acte. Le salut des hommes est alors impossible. Pour les hommes, il est impossible, mais pas pour Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu, le Père, révèle alors son plan. Toi, mon fils, tu te feras homme, afin d'accomplir au nom de tous les hommes la rédemption parfaite. Il fallait que la Vierge Marie, au nom de l'humanité, dise oui à ce plan rédempteur. Le Saint-Esprit devait l'aider à dire ce oui et réaliser en son sein l'incarnation du Verbe. Le mystère de l'incarnation rédemptrice est, de fait, le grand mystère de la miséricorde. Nous lisons au numéro 1994 du catéchisme de l'Église catholique, la justification est l'œuvre la plus excellente de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus et accordé par l'Esprit Saint. Saint Augustin estime que la justification de l'impie est une œuvre plus grande que la création du ciel et de la terre, parce que le ciel et la terre passeront, tandis que le salut et la justification des élus demeureront. Il estime que la justification des pécheurs l'emporte sur la création des anges dans la justice, en ce qu'elle témoigne d'une plus grande miséricorde. Oui, Dieu est miséricorde. Alors peut-être le mot « justification » est un peu difficile pour vous. Ce mot est entré dans la théologie. Ce mot a été aussi l'occasion de grandes querelles théologiques entre Luther et l'Église catholique. Alors, le mot « justification », ça veut dire l'acte par lequel Dieu rend juste un pécheur. Voilà. Et comment Dieu va-t-il pouvoir nous justifier? Comment est-ce possible que Dieu puisse nous justifier? Parce que Jésus est mort sur la croix pour nous, parce qu'il a accompli notre rédemption, parce qu'il nous a donné l'Esprit Saint. Et on peut dire que pour chacun d'entre nous, le moment de la justification, c'est le moment où nous avons reçu le sacrement de baptême. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Et donc, le fait que nous soyons devenus les enfants de Dieu est un acte purement gratuit que personne d'entre nous n'a mérité. C'est un acte que Dieu nous donne gratuitement parce que Jésus, le Fils de Dieu, a accepté de se faire homme, a accepté d'accomplir la rédemption. Voilà le mystère de la miséricorde. Deuxième petit point, la rencontre personnelle de notre pape François avec Dieu miséricorde. Notre pape a déjà raconté plusieurs fois le moment de sa conversion et de sa vocation. Alors, quand on parle de conversion, il n'est pas passé de l'athéisme à la foi, non. Mais il est passé d'une vie chrétienne tiède à une vie chrétienne fervente et zélée. Et cette conversion s'est faite au cours d'une confession qui aurait pu être banale, un jour de fête de Saint Matthieu. Ce jour-là, il a reçu une grâce extraordinaire et expérimenté ce que le publicain Lévi a ressenti. Et on peut souligner que le prêtre qui lui a donné le pardon, lui, n'a rien ressenti. Voilà, c'est pour dire que c'est Jésus qui agit à travers le prêtre. L'appel de Matthieu, écrit-il, est lui aussi inscrit sur l'horizon de la miséricorde. Passant devant le comptoir des impôts, Jésus regarda Matthieu dans les yeux. C'était un regard riche de miséricorde qui pardonnait les péchés de cet homme. Et surmontant les résistances des autres disciples, il le choisit, lui, le pécheur et le publicain, pour devenir l'un des 12. Commentant cette scène de l'Évangile, Saint Bède le Vénérable a écrit que Jésus regarda Matthieu avec un amour miséricordieux et le choisit. Miserando atque eligendo. Cette expression m'a toujours fait impression au point d'en faire ma devise. Traduisons d'abord la devise de notre Saint-Père. Miserando atque eligendo. Vous avez des spécialistes du latin parmi vous. Nous avons là deux gérondifs qui signifient, donc deux verbes au mode gérondif, en faisant miséricorde et en choisissant. L'évangéliste Saint Matthieu veut dire que Jésus lui a fait miséricorde alors qu'il était un pécheur public et qu'il a choisi comme apôtre immédiatement, grâce inouïe. Cet appel a causé le scandale des pharisiens. Le jeune Argentin Georges Bergoglio, quant à lui, n'a pas vu Jésus comme Matthieu, mais dans la personne du prêtre qui agissait in persona Christi dans le sacrement de pénitence, il a comme vécu la même rencontre avec Jésus. Cette rencontre l'a bouleversé et a changé sa vie. Cet événement qu'il rappelle souvent nous permet de mieux comprendre ce que voulait dire Benoît XVI. La vie, la foi chrétienne ne naît pas d'une idéologie, mais d'une rencontre personnelle, la rencontre avec la personne de Jésus ressuscité. Cette rencontre a été aussi réelle pour saint Matthieu que pour Georges Bergoglio. Troisième petit approfondissement, la théologie de saint Paul, dont le fondement est la miséricorde. La conversion de Saul, le persécuteur de l'Église, a été, elle aussi, le fruit d'une rencontre. La rencontre avec Jésus ressuscité sur le chemin de Damas. Saul, le persécuteur, est devenu Paul, le plus grand apôtre missionnaire de tous les temps, et l'un des premiers théologiens chrétiens. Saul était pharisien. On peut dire qu'il était un parfait pharisien. Il se considérait comme un juste parce qu'il pratiquait intégralement la loi. Mais après sa rencontre avec Jésus ressuscité, il comprend que nul n'est justifié par ses œuvres, que tous les hommes sont pécheurs et que lui-même fait partie de ces hommes pécheurs et que tous ont besoin de la miséricorde de Dieu pour être sauvés. Cette miséricorde, Saul l'accueille dans un cœur humble, contrit et reconnaissant. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2, verset 20, il écrit « Jésus m'a aimé, il s'est livré pour moi. » Saint Augustin a tiré la leçon de cette théologie de saint Paul sur la justification. Saint Augustin s'est opposé au moine Pélage, qui jouissait à Rome d'une grande réputation. Ce moine, vers l'an 390, scandalisé par les mœurs relâchées des Romains, prêchait l'ascétisme chrétien, ou du moins la grande pénitence, si vous voulez. Et il faisait de nombreux adeptes. Il était considéré comme un héros, comme quelqu'un qui était extraordinaire, qu'il fallait suivre. Les êtres humains, disait-il, peuvent mener une vie vertueuse et mériter le paradis par leurs propres efforts. On pourrait comparer Pélage aux pharisiens dont on a parlé hier, dont Jésus parlait hier dans l'Évangile, dans la parabole du pharisien et du publicain. Donc le pharisien qui méprise ce publicain, qui est un pécheur, alors que moi je jeûne deux fois par semaine, je fais ceci, je fais cela. Donc voilà, c'était le Pélage. Les êtres humains, disait-il encore, peuvent mener une vie vertueuse et mériter le paradis par leurs propres efforts. Si l'homme a le devoir d'éviter le péché, disait-il encore, c'est qu'il le peut. Il serait injuste et absurde de lui attribuer à crime ce qui ne dépend pas de lui d'éviter. Saint Augustin voit le grand danger du pélagianisme. Ce danger nie la théologie de la justification de saint Paul, Nul ne peut se sauver par lui-même, car Jésus seul est notre sauveur. Et c'est pour cela que saint Augustin va vraiment prendre le contre-pied de Pélage pour dire si la théologie de Pélage l'emportait, ce serait la ruine pour l'Église, parce qu'on mettrait nos vertus au-dessus de la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que saint Augustin va mettre le primat, va donner le primat à la grâce. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Voilà. Bien sûr qu'après, il faut qu'on collabore, et ça, on le redira tout à l'heure. Quatrième développement, le péché contre l'Esprit Saint, d'après saint Jean-Paul II. Et vous allez voir la suite avec ce que je viens de dire précédemment. Saint Jean-Paul II, au numéro 46 de son encyclique sur le Saint-Esprit, écrivait « Le blasphème contre l'Esprit-Saint consiste à refuser de recevoir le salut que Dieu offre à l'homme par l'Esprit-Saint, agissant en vertu du sacrifice de la croix. » Alors, je répète, car c'est très important. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a développé ce que Jean-Paul II a écrit dans cette encyclique sur le Saint-Esprit. Je n'ai pas vu beaucoup de développement sur cette question. Et c'est capital. Le blasphème contre l'Esprit-Saint, c'est refuser de recevoir le salut que Dieu m'offre par l'Esprit-Saint qui agit en vertu du sacrifice de la croix. Si le Saint-Esprit me fait découvrir que je suis pécheur et que je ne peux être sauvé que par Jésus sur la croix, qu'il me faut faire un acte de foi en Jésus et que consciemment je refuse, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Voilà. Hein? C'est le péché de l'orgueil absolu, l'orgueil de Lucifer, l'orgueil des anges révoltés. Je veux me sauver par moi-même. Je refuse d'être sauvé par quelqu'un d'autre. Voilà le péché contre le Saint-Esprit tel que le décrit Jean-Paul II. Je continue Jean-Paul II. Le péché contre le Saint-Esprit consiste précisément dans le refus radical de cette rémission dont il est le dispensateur intime et qui présuppose la conversion véritable qu'il opère dans la conscience. Si Jésus dit que le péché contre l'Esprit-Saint ne peut être remis ni en ce monde ni dans l'autre, c'est parce que cette non-rémission est liée comme à sa cause à la non-pénitence, c'est-à-dire au refus radical de se convertir. Cela signifie le refus de se tourner vers les sources de la rédemption. Pour saint Jean-Paul II, le péché contre l'Esprit-Saint est donc le refus de sa lumière qui révèle à l'homme que pour être sauvé, il faut accepter la rédemption accomplie parfaitement par Jésus le Rédempteur. On pourrait dire que le péché contre le Saint-Esprit est le refus de la miséricorde que Jésus nous a mérité. Accueillir la miséricorde, c'est faire cet acte d'humilité, accepter d'être sauvé par un autre. Le blasphème contre l'Esprit-Saint, conclut Jean-Paul II, ne permet pas à l'homme de sortir de la prison où il s'est lui-même enfermé et de s'ouvrir aux sources divines de la purification des consciences et de la rémission des péchés. Cinquième approfondissement, la miséricorde donnée par Jésus et le scandale des pharisiens. Nous retrouvons quelque chose du blasphème contre l'Esprit-Saint dans le scandale de certains pharisiens devant les gestes de miséricorde posés par Jésus envers Matthieu, Zachée, la femme adultère, et surtout Marie-Madeleine. Judas, l'un des 12, s'est lui aussi scandalisé, comme les pharisiens. Il s'est scandalisé du parfum de grand prix que Marie-Madeleine a versée sur la tête et les pieds de Jésus. Dans la parabole de l'enfant prodigue que nous avons entendue ce matin, Jésus a très probablement voulu révéler aux pharisiens leur cœur dur, en leur parlant de l'attitude du fils aîné qui se scandalise du pardon donné par son père au fils prodigue. Pourquoi faire la fête pour le retour de celui qui a tout dilapidé? Le fils aîné ne comprend pas qu'il est lui aussi pécheur et qu'il a besoin de recevoir la miséricorde du Père. Il n'existe pas dans notre humanité pécheresse la catégorie des purs et la catégorie des pécheurs. Tous sont pécheurs, tous ont besoin de la miséricorde. Tel est l'enseignement de saint Paul, rappelé par notre pape François. Ne nous scandalisons pas si de grands pécheurs publics nous dépassent après leur conversion, telle sainte Marie-Madeleine, dont la tradition dit qu'elle a aimé le plus Jésus après la Vierge Marie. Devant de telles conversions, un cœur humble, contrit et miséricordieux ne peut que se réjouir en chantant « Misericordias Domini in aeternum cantabo », hein, « Les miséricordes du Seigneur, éternellement je les chanterai ». Puissent tous les grands pécheurs de notre temps se convertir et devenir de grands saints. C'est ce que souhaite notre Saint-Père comme fruit de l'année sainte. Sixième approfondissement, Dieu ne se fatigue jamais de pardonner. Dieu oublie nos péchés. Notre pape François, le dimanche 17 mars 2013, pour son premier Angélus, disait « Dieu ne se fatigue jamais de nous pardonner. C'est nous qui nous fatiguons de lui demander pardon. Il est le Père plein d'amour qui pardonne toujours et a de la miséricorde pour nous tous. Un peu de miséricorde change le monde, rend le monde moins froid et plus juste. » Peu avant, dans l'homélie de la messe à l'église Sainte-Anne du Vatican, il avait dit « Je vous le dis humblement, le message le plus important du Seigneur, c'est la miséricorde. » Dans l'homélie de la messe de ce 1er mars 2016, à la chapelle Sainte-Marthe, le Saint-Père disait encore « Quand Dieu pardonne, son pardon est si grand que c'est comme s'il oubliait. Tout le contraire de ce que nous faisons. Mais celui-ci, il a fait ça. Il fait ça. Nous n'avons pas le cœur miséricordieux. Mais nous savons implorer pour nous la miséricorde. Fais avec nous selon ta clémence, selon ta grande miséricorde, sauve-nous. C'est un appel à la miséricorde de Dieu pour qu'il nous donne le pardon et le salut et qu'il oublie nos péchés. Il est bien évident que Dieu éternel ne peut pas oublier. Notre pape François le sait très bien. Mais en disant « c'est comme s'il oubliait nos péchés », le Saint-Père veut nous faire comprendre que la justification du pécheur est vraiment une réalité. Dieu ne revient pas en arrière. Dieu ne redit pas sans cesse. N'oublie pas ce que tu as été. N'oublie pas ce que tu as fait. Jésus n'a pas redit à Pierre « Tu m'as renié 3 fois, ne l'oublie jamais. » Non. Il lui a demandé au bord du lac 3 fois « M'aimes-tu ?» Il en a été ainsi avec la Samaritaine, la femme adultère, Marie-Madeleine, Matthieu et Zachée. La miséricorde les a rétablis dans leur dignité. Ce que dit notre Saint-Père est dans la continuité avec les enseignements de Saint Jean-Paul II, le pape de la miséricorde, et avec l'Évangile et les révélations de Jésus, qui disait à Sainte Faustine « Je veux que les prêtres proclament ma très grande miséricorde. Je veux que les pécheurs m'approchent sans crainte d'aucune sorte. L'âme fut-elle comme un cadavre en pleine putréfaction. N'y eut-il plus humainement aucun remède ? Il n'en est pas ainsi devant Dieu. Les flammes de ma miséricorde me consument. Je suis pressé de les déverser sur les âmes. Je suis tout amour et toute miséricorde. Une âme qui se fie à moi est bienheureuse, car moi-même je prends soin d'elle. Aucun péché, fût-il un abîme d'abjection, n'épuisera ma miséricorde, car plus on y puise et plus elle augmente. Je suis plus libéral pour les pécheurs que pour les justes. C'est pour eux que je suis descendu sur cette terre. C'est pour eux que j'ai versé tout mon sang, qu'ils ne craignent donc pas de m'approcher. Jésus voulait que personne n'ait peur de s'approcher de lui. On ne puise ma miséricorde qu'avec la coupe de la confiance. Plus on a confiance et plus on obtient. J'aime que l'on me demande beaucoup, car je désire donner beaucoup et de plus en plus. » Il ne faudrait pas tirer des mauvaises conséquences. Soyons des grands pécheurs et comme ça nous recevrons beaucoup de miséricorde. Ce serait faire un contresens. Et c'est pour ça que le prochain approfondissement, c'est « Va et ne pêche plus ». Jean 8, 11. Il est important de rappeler cette invitation de Jésus à la femme adultère. Notre Seigneur n'a pas condamné à la lapidation cette femme, mais il lui a demandé de ne plus pécher. Marie-Madeleine est devenue modèle des pénitentes. Matthieu et Zachée ont radicalement changé de vie. Luther a mal interprété l'évangile de la miséricorde qui ne se moque ni de la vérité ni de la justice. Nos fondateurs ont réagi par rapport à la fausse idée de miséricorde particulièrement répandue en nos jours. La sentimentalité sans vérité n'est pas la miséricorde évangélique. Notre père fondateur partageait totalement la pensée de Jean-Paul II. En aucun cas, la vraie miséricorde ne saurait être indulgente envers le mal et le scandale. Le politiquement correct ouvre la porte à beaucoup de compromissions. Soyons sur nos gardes. Le mal ne peut pas être appelé bien. Jean-Paul II, dans l'encyclique sur la vie, a écrit que la justification du péché, donc appeler le mal bien, est le signe d'un grand obscurcissement des consciences. Benoît XVI a parlé de l'apostasie de l'Europe. Le mot n'est pas trop fort. L'Europe, en effet, ne peut pas oublier ses racines chrétiennes. Appeler le mal bien est une grave et grande apostasie. Nous devons avoir le courage de dire que l'avortement est toujours un mal, que l'euthanasie est toujours un mal, que tuer une personne innocente est toujours un mal, que l'adultère est toujours un mal, que le mensonge et le vol sont toujours des maux. En disant cela, nous ne condamnons pas les pécheurs, mais nous les invitons à se tourner vers Jésus et à se convertir en reconnaissant leurs péchés et en demandant la miséricorde de Dieu qui ne leur sera pas refusée s'ils partagent les sentiments du Fils prodigue, contrit et repentant. Nos pères et mères parlaient souvent de Sainte Monique, qui a exercé la vraie miséricorde avec son fils concubin Augustin. Elle a toujours aimé son fils, mais elle n'a jamais accepté qu'il couche sous son toit avec sa concubine. L'amour maternel énergique, la prière et les larmes de Sainte Monique ont obtenu la conversion de celui qui est pour Benoît XVI le plus grand docteur de l'Église de l'Occident. Cette conversion aurait-elle eu lieu si Sainte Monique avait été faible avec son fils? Ne confondons pas justification du pécheur et justification du péché. Dieu miséricorde aime le pécheur et il justifie le pécheur si le pécheur revient contrit et confiant comme l'enfant prodigue. Mais Dieu miséricorde réprouve le péché et ne justifiera jamais le péché. Dieu miséricorde ne peut pas abolir les 10 commandements qu'il a donnés à Moïse. Jésus, dans le sermon sur la montagne, a dit « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Miséricordieux comme le Père. Nous entrons maintenant dans les, on peut dire, ce que la miséricorde va changer en nous et quels actes maintenant Dieu attend de nous qui avons reçu cette miséricorde. Car dans toute la théologie catholique de la justification, le moment de la justification est un moment où on reçoit gratuitement cette grâce de Dieu qui nous sanctifie, qui nous divinise. Mais une fois que l'on est justifié, eh bien ensuite, on doit vivre une vie de sainteté. Bien sûr, si on a péché, eh bien, il y a toujours le sacrement de pénitence pour nous aider à nous relever. Voilà, hein, mais nous sommes appelés ensuite à imiter Dieu. Voilà. Alors, c'est la devise de l'année sainte. Miséricordieux comme le Père. L'année jubilaire pour notre pape François ne doit pas être seulement une année où l'on se contente de bien parler de Dieu miséricorde. Voilà. Donc, vous avez passé votre journée de pèlerinage. Vous avez entendu une conférence ce matin, vous avez entendu une après-midi, et après vous allez repartir en disant, eh bien ça y est, maintenant, on a la grâce du jubilé, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Eh bien, il faut que ce que vous avez entendu porte du fruit. Donc cette année doit être pour chacun de nous une année de vraie et profonde conversion. Ce n'est pas de l'égoïsme que de vouloir obtenir l'indulgence plénière de l'année sainte. Cette indulgence est un don, nouveau don gratuit de Dieu miséricorde par son Église. Bon, je vous explique un tout petit peu la question de l'indulgence parce que beaucoup ne comprennent pas bien cette question de la peine temporelle, la peine spirituelle. Donc, la peine spirituelle du péché, c'est la damnation. Cette peine est levée par le sacrement de pénitence. Mais il demeure toujours une peine temporelle. Donc la peine temporelle, c'est les conséquences de nos péchés. Alors, dans les retraites, je prends l'exemple de celui qui joue au rugby dans la cour, et qui casse le carreau de la voisine. La voisine n'est pas forcément sportive. Donc, maman va dire, va demander pardon à la voisine. Donc, la voisine, elle va dire, si l'enfant vient me demander pardon, bien sûr, je te pardonne, mais il faut changer le carreau. Voilà. Alors, le carreau soit on va te donner l'argent pour le changer, ou alors la dame peut décider de me faire cadeau même du carreau. Alors pendant l'année sainte, eh bien, en vertu des mérites des saints, le trésor de l'Église, eh bien, l'Église peut permettre aussi d'être libérée des peines temporelles de nos péchés. Il y avait un garde suisse, c'était un ami qui est aujourd'hui prêtre, qui m'avait amené ce garde suisse. Il y avait un petit peu des problèmes avec les indulgences. Voilà. Et alors, cet ami m'avait dit, il faudrait que vous lui expliquiez un petit peu, parce qu'il n'accepte pas bien les indulgences. Alors, j'ai trouvé cette petite... voilà, je lui ai dit, vous savez, si vous voulez rester au purgatoire jusqu'à la fin du monde, vous êtes libre. Mais si vous préférez recevoir un don gratuit de Dieu par l'Église qui vous permettra de ne pas rester au purgatoire jusqu'à la fin du monde, vous êtes libre d'accueillir l'indulgence plénière. Donc vous n'êtes pas obligé, si vous voulez, vous n'êtes pas tenu à accueillir l'indulgence plénière. Alors je pense qu'après, il a quand même un peu compris. Voilà. Donc, voilà, si vous voulez souffrir tout le temps au purgatoire, pourquoi pas, hein, vous avez, tout le monde a le droit. Voilà. Mais puisque l'Église nous donne cette grâce, prenons-la. Voilà. Donc, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un don gratuit de Dieu. N'ayez pas peur de l'accueillir dans un cœur humble, contrit et reconnaissant. Et plus notre cœur sera purifié, non seulement de la peine éternelle de nos péchés, mais de la peine aussi temporelle de nos péchés. Plus notre cœur sera purifié, plus nous désirerons obtenir cette indulgence plénière pour beaucoup d'âmes du purgatoire. Et chaque jour, vous pouvez obtenir une indulgence plénière pour une âme du purgatoire. Cette indulgence nous aidera à mettre en pratique la devise donnée par notre pape François pour cette année sainte, miséricordieux comme le Père. Voici ce qu'écrit le pape dans sa bulle d'indiction. Jésus affirme que la miséricorde n'est pas seulement l'agir du Père, mais elle devient le critère pour comprendre qui sont ses véritables enfants. En résumé, nous sommes invités à vivre de miséricorde parce qu'il nous a d'abord été fait miséricorde. Le pardon des offenses devient l'expression la plus manifeste de l'amour miséricordieux. Et pour nous chrétiens, c'est un impératif auquel nous ne pouvons pas nous soustraire. Bien souvent, il nous semble difficile de pardonner. Cependant, le pardon est le moyen déposé dans nos mains fragiles pour atteindre la paix du cœur. Se défaire de la rancœur, de la colère, de la violence et de la vengeance est la condition nécessaire pour vivre heureux. Accueillons donc la demande de l'apôtre, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Écoutons surtout la parole de Jésus qui a rétabli la miséricorde comme idéal de vie et comme critère de crédibilité de notre foi. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. C'est la béatitude qui doit susciter notre engagement tout particulier en cette année sainte. Les œuvres corporelles et spirituelles de miséricorde. Voilà, nouveau petit développement. Notre pape François fait découvrir ce que sont les œuvres de miséricorde corporelles. Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Saint Camille de Lélis, Saint Jean de Dieu, Saint Vincent de Paul, la bienheureuse Mère Teresa sont nos modèles pour l'exercice de ces œuvres de miséricorde corporelle. Nous avons reçu cette semaine un témoignage de la mère prieure du Carmel d'Athènes, donc, qui était la mère prieure de Bergerac. Et donc, nous communiquons avec elle. Et elle nous a décrit la situation terrifiante en Grèce actuellement. Voilà. Des mamans, des enfants qui sont dans la rue, qui n'ont rien. Les enfants sont mis dans des cartons. Voilà. Hein. Donc, ben, les œuvres de miséricorde corporelle, ben, c'est de venir à leur secours. Et aujourd'hui, vous voyez la catastrophe à l'échelle mondiale, hein, qui se vit. Saint Ignace de Loyola, après son ultime conversion au sanctuaire de Montserrat, a pris la décision de se rendre dans la petite ville de Morez pour servir dans un hospice et y exercer une charité héroïque. Ce service des plus pauvres et des plus déshérités lui a permis d'exercer les vertus et d'être dans les meilleures dispositions spirituelles pour recevoir les inspirations de Dieu et de la Vierge Marie et composer ses exercices spirituels. Nous ne pouvons pas échapper aux paroles du Seigneur, dit le pape François, et c'est sur elles que nous serons jugés. Aurons-nous donné à manger à qui a faim, boire à qui a soif? Aurons-nous accueilli l'étranger, vêtu celui qui était nu? Aurons-nous pris le temps de demeurer auprès de celui qui est malade et prisonnier? Et puis, les œuvres spirituelles de miséricorde. Voici ce qu'elles sont pour le pape François. Conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses. Je ne sais pas s'il parle d'expérience là. Priez Dieu pour les vivants et pour les morts. De même, il saura demander si nous avons aidé à sortir du doute qui engendre la peur et bien souvent la solitude. Voilà. Notre fondateur et Mère Marie-Augusta ont exercé dans un don total d'eux-mêmes ces œuvres spirituelles de miséricorde. Ils se sont donnés sans compter pour l'éducation des cœurs à l'image des cœurs de Jésus et de Marie. Cette éducation des cœurs est une vraie œuvre de miséricorde spirituelle. Demandons au bon Saint Joseph de nous obtenir les grâces de patience, de persévérance et de confiance pour exercer sans nous lasser ces œuvres de miséricorde spirituelle. Nous sommes très heureux de voir que le pape a bien souligné les deux, parce qu'on oublie trop souvent que les œuvres de miséricorde demandées par Dieu ne s'arrêtent pas simplement aux œuvres de miséricorde corporelles. Bon, bien sûr, ces œuvres sont importantes, parce que quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, qui n'a pas de quoi boire, eh bien, il faut quand même lui donner à manger et à boire avant de lui faire un cours d'éducation. Mais en même temps, permettre à quelqu'un de retrouver sa dignité de fils et fille de Dieu, de pouvoir de nouveau prendre sa place dans ce monde, de pouvoir avoir un travail, de pouvoir avoir une famille, eh bien, ça, c'est une œuvre de miséricorde spirituelle et ce que, donc, on appelle, le Père et Mère Marie-Augusta appelaient l'éducation des cœurs. Voilà. Donc, merci au pape François d'avoir souligné cela. Aimer dans la douceur de l'amour, collaborer au salut des âmes. Exercer la miséricorde, c'est aussi aimer comme Jésus, avec un cœur humain et délicat. La délicatesse maternelle de Mère Marie-Augusta a touché beaucoup de cœurs. Nous devons l'imiter en étant comme des mères pour toutes les âmes. Une mère a un cœur tendre. Elle sait réchauffer le cœur des autres, apprendre à aimer, être pleine de sollicitude, s'intéresser aux personnes avec une bonté spontanée. Voilà comment nous exercerons la mission de la miséricorde dans la fidélité à l'esprit maternel de Mère Marie-Augusta. Notre Père fondateur, lui, a vraiment exercé la miséricorde paternelle de Dieu. En étant le conseiller paternel, affectueux, patient et fort, il a été jusqu'au bout un Père patient, persévérant et confiant, parce qu'il avait une confiance absolue en cette réflexion de notre Mère, qui lui avait été inspiré du cœur de Jésus. Si la pêche des hommes est laborieuse, il faut malgré cela espérer que la grâce peut les transformer, les assouplir, alléger leur lourdeur humaine, les enflammer d'amour et même en faire des brasiers d'amour enflammeurs. Nos pères et mères, enfin, ont imité Jésus dans sa mission de rédempteur miséricordieux, en acceptant de souffrir en aimant et d'aimer en souffrant, pour leurs enfants spirituels et pour le salut de beaucoup d'âmes. Ne l'oublions pas, Dieu n'aurait pas pu répandre sa miséricorde sur tant d'âmes au cours du XXe siècle si des baptisés généreux comme le Padre Pio, Marthe Robin, les petits-enfants de Fatima, Sainte Faustine, Jean-Paul II et d'autres, dont nos pères et mères, n'avaient pas accepté de prendre leur croix à sa suite et de collaborer avec Jésus Rédempteur. Notre fondateur nous répétait souvent que le premier but pour lequel on se donnait à Dieu dans la vie consacrée était le salut des âmes. Comprenons cela en profondeur et désirons collaborer avec Jésus au salut des âmes. Il n'y aurait pas de dimanche de la miséricorde dans l'octave de Pâques s'il n'y avait pas eu d'abord le vendredi saint. Je crois que c'est très très important à souligner. Hein, la miséricorde ne pouvait être donnée que si la rédemption avait été accomplie. Et je conclue par la Vierge Marie. La Vierge Marie, Mère de la Miséricorde, notre parfait modèle. La Vierge Marie nous précède tous dans l'imitation de Jésus miséricordieux. Elle a vécu à la perfection la devise de cette année sainte, miséricordieux comme le Père. Marthe Robin a résumé la mission de la Vierge Marie par deux mots, la maternité. Comme si elle était unique. La maternité. Dieu le Père peut être, on peut dire, caractérisé par la paternité. La Vierge Marie est vraiment modèle parfait de miséricorde maternelle. Cette miséricorde, elle l'a exercée d'une manière très discrète pendant sa vie terrestre. Mais elle l'exerce d'une manière de plus en plus visible dans le monde entier aujourd'hui, car la Vierge Marie ne cesse d'agir, et d'agir puissamment. Jean-Paul II, dans son encyclique sur la Sainte Vierge, avait parlé de l'action maternelle de la Vierge Marie dans tous les sanctuaires mariaux du monde. Benoît XVI, à Lourdes, le 15 septembre 2008, a donné une homélie qui déjà fait date. Sur le sourire de Marie. Il fallait le génie de ce plus grand pape théologien de l'histoire pour parler en la fête de Notre-Dame des Douleurs du sourire de Marie. Notre Mère Céleste à Lourdes, la cité du malade, mais aussi dans tous ses autres sanctuaires du monde, se penche avec miséricorde sur ses enfants pécheurs et les invite à la conversion et à la joie du pardon. Les plus grands miracles de Lourdes ne sont pas les guérisons des corps, mais les guérisons de l'âme. Oui, nous pouvons et nous devons saluer très souvent la Sainte Vierge par ses paroles du Salve Regina, Mater Misericordiae, Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos at nos converte, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Alors, je vous fais un peu sourire. Hein. Bernard Riou, qui a été le responsable des routiers d'Europe, avait demandé à des routiers qui venaient de chanter la Salve Regina. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu viens de chanter, là ? Eh, Salve Regina ! Salve Regina ! Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Lucedo, Espes Nostra Salve. Oui, mais une fois, il serait important de regarder la traduction. Et vous verrez que dans ce Salve Regina, on loue la Mère de Miséricorde. Voilà. Hein ? Avec ses yeux miséricordieux, hein ? tourne vers nous ton regard miséricordieux. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. L'action de la Sainte Vierge, Mère de la Miséricorde, ne se limite pas à son action dans ses sanctuaires. Telle une mère qui ne peut pas oublier ses enfants, elle agit pour le salut de chacun. Elle voudrait tant participer au salut de tous ceux pour qui Jésus a versé son sang. Elle connaît le prix de la rédemption. Elle désirerait tant le voir appliqué à toutes les âmes. Pensons aux pleurs de la Sainte Vierge à la Salette. Hein, Mélanie, pourquoi pleurez-vous, madame ? Si l'on comprend son cœur maternel si miséricordieux, on comprendra alors son grand appel de Fatima. La Sainte Vierge n'a pas montré l'enfer aux enfants et les nombreuses âmes qui y tombaient pour faire peur à Lucie, Jacinthe et François. Elle ne peut pas vouloir faire peur à ses trois enfants. Ce n'est pas possible. Mais pourquoi leur a-t-elle fait voir l'enfer ? C'est pour faire de ses enfants ses collaborateurs, en vue du salut des âmes en perdition. La Sainte Vierge nous invite, chacun et chacune, en cette année de la Divine Miséricorde, à collaborer à la plus grande œuvre divine de la Miséricorde, le salut des âmes. À Amsterdam, la Vierge Marie s'est présentée comme la Dame de tous les peuples. Elle a demandé le 1er avril 1951 que l'Église proclame un nouveau dogme, Marie corédemptrice, médiatrice et avocate. Les apparitions d'Amsterdam ont été reconnues par l'évêque du lieu, mais la demande de la Dame de tous les peuples n'est pas encore exaucée. Nous avons le droit de prier et d'offrir, afin que l'Église puisse un jour, lorsque les clarifications théologiques nécessaires auront été données, proclamer ce dogme que le ciel demande. Ce dogme ne fera que mettre en lumière ce que saint Paul disait dans son épître aux Colossiens : « Je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous et je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ. » Notre-Dame des douleurs nous révèle que pour être miséricordieux comme le Père, il est important de collaborer à la mission de Jésus Rédempteur, car le but premier de la miséricorde divine n'est pas le bonheur de l'homme en ce monde, mais le bonheur éternel dans la vie éternelle. Il est temps maintenant, je crois, de conclure, parce que nous allons avoir le chemin de croix à 15h dans l'église. Je vous lis la conclusion du pape dans sa bulle d'indiction. Donc, une année sainte extraordinaire cette année, pour vivre dans la vie de chaque jour la miséricorde que le Père répand sur nous depuis toujours. Au cours de ce jubilé, laissons-nous surprendre par Dieu. Il ne se lasse jamais d'ouvrir la porte de son cœur pour répéter qu'il nous aime et qu'il veut partager sa vie avec nous. L'Église ressent fortement l'urgence d'annoncer la miséricorde de Dieu. La vie de l'Église est authentique et crédible lorsque la miséricorde est l'objet d'une annonce convaincante. Elle sait que sa mission première, surtout à notre époque, toute remplie de grandes espérances et de fortes contradictions, et de faire entrer tout un chacun dans le grand mystère de la miséricorde de Dieu en contemplant le visage du Christ. L'Église est d'abord appelée à être témoin véridique de la miséricorde en la professant et en la vivant comme le centre de la révélation de Jésus-Christ. Du cœur de la Trinité, du plus profond du mystère de Dieu, jaillit et coule sans cesse le grand fleuve de la miséricorde. Cette source ne sera jamais épuisée pour tous ceux qui s'en approcheront. Chaque fois qu'on en aura besoin, on pourra y accéder, parce que la miséricorde de Dieu est sans fin. Autant la profondeur du mystère renfermé est insondable, autant la richesse qui en découle est inépuisable. Quand cette année jubilaire, l'Église fasse écho à la parole de Dieu qui résonne forte et convaincante, comme une parole et un geste de pardon, de soutien, d'aide, d'amour. Qu'elle ne se lasse jamais d'offrir la miséricorde et soit toujours patiente pour encourager et pardonner. Que l'Église se fasse la voix de tout homme et de toute femme et répète avec confiance et sans relâche « Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Amen. Magnificat. » Voilà. Voilà.